fait du talent du pont de fer, la vie se triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec au programme aujourd'hui deux auteurs pour un livre. Il s'agit d'Amanda Sterz et de Aurélie Jean qui ont coécrit un roman qui est paru aux éditions de l'Observatoire, roman qui s'intitule Résistance 2050. Quand une romancière et une scientifique se penchent sur la question de l'éthique, des progrès qui peuvent être faits dans le domaine des neurosciences, eh bien ça donne ce roman Résistance 2050 qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses et c'est passionnant. Ça c'est pour la première partie d'émission. En deuxième partie, on retrouve la chronique de Gérard Guégan qui abordera deux ouvrages. Nous parlerons donc du nouveau livre de Christian Autier qui est paru chez Flammarion et qui s'intitule Poste Restante. Et puis en fin de chronique, en deuxième partie de chronique, nous parlerons de Sylvia Plath et ça c'est un vrai bonheur. Voilà pour le programme de ce soir, programme copieux et intéressant. On retrouve tout de suite Amanda Sterz et Aurélie Jean pour Résistance 2050, roman paru aux éditions de l'Observatoire. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de discuter avec Amanda Sterz, qui est une fidèle de cette émission, et Aurélie Jean, puisqu'elles ont toutes deux écrit un roman qui est paru aux éditions de l'Observatoire et qui m'a beaucoup intéressée. Ce roman s'intitule « Résistance 2050 ». Et je dois dire que c'est une entreprise qui, moi, m'a fascinée parce que, comme je l'évoquais, Amanda Sterz, on la connaît comme romancière, comme auteure, dans un registre de sensibilité, de délicatesse d'écriture, de sujets qui prennent au cœur. Et là, on vous retrouve, Amanda, à écrire un roman de prospective avec Aurélie Jean qui, elle, a écrit des livres scientifiques parce qu'on va peut-être vous présenter, Aurélie. Vous êtes doctoresse sciences, vous êtes pas du tout spécialiste de la fiction, mais spécialiste des algorithmes. Et ce livre, Résistance 2050, moi, m'a beaucoup parlé parce que je suis une ancienne lectrice de science-fiction. Et à l'époque, j'avais lu, au moment de sa sortie, dans les années 80, un livre qui s'appelait « Neuromancien » de William Gibson, qui avait été une espèce de secousse dans le domaine de la science-fiction. Et là, avec Résistance 2050, on se dit que... on est en 2023 et c'est écoulé un certain nombre d'années depuis Gibson. 2050, c'est dans pas très très longtemps et ça permet de prendre la mesure des choses. Et le fait que le titre comporte le mot résistance, je crois, est très parlant. Alors, est-ce que vous voulez bien toutes les deux nous parler de la naissance et de la genèse de ce projet qui est là sous nos yeux ?
Vas-y, Amanda, si tu veux, vas-y. En fait, oui, comme vous le dites, j'ai souvent des sujets de littérature qui sont très différents, et en même temps, j'ai des préoccupations larges. Je pense que quand on est écrivain, on est toujours dans l'anticipation. C'est-à-dire que même quand on écrit un roman qui a l'air d'actualité, je pense qu'il raconte ou quelque chose de notre époque ou quelque chose qu'on sent qui va arriver. Et là, on va dire que j'ai poussé ce trait au maximum parce que je voyais des choses qui m'inquiétaient, notamment sur le manque d'éthique pour accompagner la création de toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et toutes celles qui commencent à toucher au transhumanisme et qui m'effrayaient. J'ai la chance d'avoir une amie comme Aurélie qui peut m'éclairer scientifiquement et me donner des réponses assez claires à des choses qui parfois peuvent être un peu nébuleuses. Et donc, je lui ai parlé de cette idée. Je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée de fiction qui serait de découper une France, mais aussi, on parle de la France, mais on parle aussi du monde entier dans le livre. Voilà, un monde fracturé entre ceux qui suivent les progrès poussés au maximum, puisque là, on parle de gens qui ont mis des puces cérébrales, et une autre partie qui résisterait à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu penses qu'on peut créer une fiction ensemble en projetant des choses qui pourraient être... véridique scientifiquement. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le travail que font souvent les Américains quand ils écrivent des films, de travailler main dans la main avec une scientifique qui m'apporterait des réponses claires. Et du coup, ça devient vraiment de l'anticipation et ça devient un questionnement éthique humain plus que un délire de créateur. Ça donne des livres très différents.
Tout à fait. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. Vous avez prononcé le mot qui n'est pas trop prononcé, je trouve peut-être pas assez, c'est le mot éthique. Et on le voit très bien dans Résistance 2050 que vous avez écrit, donc Amanda Sterz et Aurélie Jean, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Au départ, cette puce, Elle est créée pour guérir. Elle est créée, c'est un implant cérébral créé pour guérir les gens qui sont atteints de maladies d'Alzheimer, enfin toutes ces pathologies neurodégénératives. Donc ça part d'un très très beau projet de mettre fin à une maladie qui fait des ravages. Et vous avez évoqué, Amanda Sterz, la question du transhumanisme. Et c'est un débat qui à chaque fois est toujours le même, c'est-à-dire que au départ, on essaye de mettre à disposition dans le domaine du thérapeutique une technique, quelle qu'elle soit, pour soigner. Et puis, on essaye d'aller plus loin. Est-ce que quelque part, ça ne pourrait pas améliorer, augmenter ? Et c'est comme ça que sont nées les idées transhumanistes. Et pour avoir participé à certaines discussions, l'argument classique qui est ressorti, c'est « Ah ben oui, mais pourquoi tu refuses le transhumanisme puisque tu acceptes de porter des lunettes ?» C'est un exemple caricatural. Mais là, en tout cas, votre ouvrage, à toutes les deux, met en évidence ce chemin qui est fait entre quelque chose mis au point à titre thérapeutique et comment ça peut dériver ensuite, parce que les questions éthiques ne se posent pas forcément auprès des bonnes personnes, et puis parce qu'il y a l'aspect commercial, politique, manipulation, et tout ça, vous allez le développer dans le livre.
Oui, exactement, je vais peut-être répondre à ça. En fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en avant et mis en relief dans ce livre est tout simplement ce qui s'est passé dans l'histoire sur toutes les évolutions et révolutions technologiques et ce qui se passe encore actuellement. C'est-à-dire que n'importe quelle invention peut être utilisée pour le bien comme pour le mauvais. Et la question, c'est... qui s'en empare, qui va l'utiliser, comment on l'encadre, comment on le pense. Et en fait, à travers ce récit, on a voulu aussi interroger le lecteur lui-même sur le fait qu'il dise oui ou non à cette puce. Et en fait, des retours qu'on a eus des lecteurs, c'était très intéressant, parce que les lecteurs, en fait, ne repartent pas forcément avec une idée précise à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu en équilibre entre les deux avis, entre être un peu tiraillés, en fait, déchirés entre le pour la puce ou contre la puce. Et en fait, on a voulu aussi montrer que ces sujets sont des sujets complexes et que toute personne qui arrive avec un avis tranché ou... Parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui dans les médias, il faut faire très attention parce que les sujets sont toujours bien plus complexes que ce qu'on veut laisser croire.
Et c'est l'avantage de ce livre Résistance 2050, c'est que vous déclinez tous les aspects et toutes les possibilités au travers déjà de l'opposition entre ceux qui acceptent la puce, qu'est-ce que ça représente pour eux, comment ça se passe, ceux qui refusent la puce, même chose, quelles sont les conséquences pour eux en termes de mode de vie, et puis également au travers de l'incarnation de différents personnages qui ont des points de vue différents. Alors on va commencer par le départ. D'un côté, il y a ceux qui ont la puce et ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que ça amène aux uns et qu'est-ce que ça amène ou a comme conséquence pour les autres? On va décrire un petit peu, si vous voulez bien.
Et comme disait Aurélie, c'était important pour nous de créer un récit qui ne soit pas manichéen. On voulait qu'il y ait des possibilités, que la vie soit belle ou compliquée de chaque côté. Il n'y a pas de choix évident ou qu'on impose. On pose plus de questions qu'on donne de réponses dans le livre. Et ensuite, pour parler vraiment de manière purement fictionnelle, qui est plus mon domaine, on avait besoin d'incarner ces deux côtés et ces questionnements. D'un côté, on a Paris, qui est un endroit qui est devenu très bureaucratique, quasiment plus personne ne vit là, puisque c'est maintenant très facile avec les moyens de transport d'être à Paris en 20 minutes de à peu près partout dans l'Est et le Nord, donc les gens se sont un peu étalés. On a une qualité de vie meilleure, il y a beaucoup moins de maladies, la puce anticipe les problèmes, les enfants sont équipés très tôt, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, puisque évidemment on leur met une encyclopédie dans la tête. Il faut que vous imaginiez que vous avez d'un coup un moteur de recherche dans la tête, vous avez Google dans la tête, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'école. En tout cas, c'est la façon dont ils voient les choses. Mais du coup, quand une partie de la France résiste, mais c'est incarné chez nous par Marseille, le sud de la France qui est en résistance, pourquoi on paierait des écoles, pourquoi on paierait la sécurité sociale, puisqu'il suffirait qu'il y ait la puce pour qu'il y ait moins de problèmes. Donc ces deux visions du monde s'incarnent. Du côté de Paris, il y a une héroïne qui s'appelle Chloé, qui est mariée avec H, et Chloé et H sont les inventeurs de cette puce à l'origine. Et ils ont eu un prix Nobel pour ça. H est resté très proche du pouvoir et très politique. Il a un besoin de briller, tandis que Chloé est une vraie scientifique. Elle a plus l'impression qu'elle veut célébrer les choses avec ses équipes, continuer à faire de la recherche, à travailler. Et elle se pose beaucoup de questions sur sa création et sur ses impacts. Elle a eu il y a très longtemps un coup de cœur pour une femme qui s'appelle Una et qui, elle, est une des personnes qui dirige la résistance du côté marseillais, qui est une chorégraphe connue mondialement et qui a voulu résister avec beaucoup d'artistes, puisque quand on a cette puce, on n'a plus de névrose, on n'a plus d'angoisse, on est comme sous antidépresseurs en permanence et en fait, ça annule le désir de créer. Et donc, la force artistique s'en va peu à peu, disparaît. Et pour elle, c'est ce qui rend les gens vraiment humains. Et donc, elle résiste à cette puce. Et il y a vraiment cette question, on s'est beaucoup dit avec Aurélie, qui était la question de qu'est-ce qui fait qu'on est humain? À quel moment on bascule d'un côté ou de l'autre? Ce qui fait qu'on est humain, c'est aussi qu'on développe des choses, qu'on invente des choses, que notre intelligence ne cesse d'augmenter, que toutes les inventions médicales ont eu des résultats formidables et qu'on peut pas tout mettre dans un côté. Et c'est aussi qu'on est des artistes, qu'on a des tourmentés, qu'on ne comprend pas complètement qui on est et pourquoi on est là. Et si on tue une partie ou l'autre, alors l'humanité est bloquée. Et c'est vraiment la question du juste milieu qu'on a essayé de poser.
Oui, oui, ça met bien en évidence la complexité de la nature humaine et de ce qui définit l'humain. Mais d'ailleurs, si on prend le côté Paris, donc cette population qui a accepté de laisser gérer sa vie, de déléguer la gestion de sa vie à la puce, puisque vous, comme vous l'évoquiez, Amanda Sterz, ça sert à la fois de Google, mais ça va plus loin. Il y a le côté régulation de l'humeur, régulation des métabolismes pour éviter la prévention, enfin pour éviter les maladies et faire de la prévention, pour vous inciter à manger sainement. Enfin bon, c'est un peu un monde idéal, mais quand même. Il y a plusieurs, bémols dans l'histoire. Tout d'abord, il y a un exemple qui est cité dans Résistance 2050 d'un gros trust alimentaire qui a essayé de faire passer un spam pour inciter les gens à la malbouffe. Donc à partir du moment où il y a possibilité de manipuler. N'importe qui peut prendre le pouvoir sur ces puces, n'importe qui peut les hacker, et c'est quelque chose qui s'est déjà produit à plusieurs reprises, et c'est évoqué dans le livre, les lecteurs le découvriront. Donc il y a ce risque-là. Et puis il y a l'autre point qui est que, comme vous l'évoquez, la nature humaine est complexe, et certains ont besoin d'éprouver de la violence ou d'avoir des sentiments extrêmes, des poussées d'adrénaline. Et donc, il y a la nécessité par moment de débrancher ces puces pour aller vivre pleinement. Donc, on a les deux aspects.
Aurélie, je te laisse.
Je vais parler. En fait, oui, absolument. Et en fait, ce qu'on a voulu traduire pour reprendre ce que dit Amanda, à savoir cette question qu'on s'est posée et que je me pose maintenant aujourd'hui dans mon travail, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est humain ? Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Cette puce a de nombreux avantages, comme on l'a déjà vu, hein, mais il y a aussi des inconvénients et des menaces sur ce qui fait de nous des humains. C'est-à-dire qu'on perd toute spontanéité. Seule la logique rationnelle va être le moteur de notre vie au quotidien. Et en fait, on va en perdre en fait une âme, tout simplement, qui fait de nous des humains et qui fait qu'on va faire des erreurs, qu'on va apprendre. Et que donc, certains privilégiés, parce que tous ne le font pas, mais certains privilégiés dans la France dite connectée, celle qui a une puce, ont la possibilité de se déconnecter, de se débrancher pour revenir à leur pulsion, à leur spontanéité, à tout ce qui fait d'eux des humains. Et en fait, on a vraiment voulu avoir ça parce que dans toute évolution et révolution technologique et scientifique, il y a toujours eu en fait une partie de gens qui ont pu utiliser ces choses différemment. Si on prend par exemple le cas aujourd'hui du téléphone portable ou des écrans en règle générale, paradoxalement, ce sont les gens qui développent ces outils, les gens qui savent comment ces outils fonctionnent et dont je fais partie, qui sommes le moins connectés. Nous sommes le moins connectés. Nous ne mettons pas d'ordinateur, d'écran à nos enfants. Moi, je fais partie des gens qui sont peut-être les moins connectés, quoi, chez moi. Et donc, en fait, c'est intéressant. On a voulu mettre en relief, en fait, l'histoire de ces personnages un peu privilégiés qui décident de se déconnecter pour redevenir, en fait, humains, quelque part.
I don't want any other.
Alors, c'est vrai que ce sont des personnages privilégiés, mais j'allais dire, là aussi, on a l'importance de la manipulation dès le départ, parce que on l'évoquait au départ, cette puce est créée pour soigner, puis très très vite, on en comprend les avantages, et on en comprend les avantages à tous les niveaux, et là, on va commencer à parler en termes de pouvoir. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir une incitation massive à se faire pucer, parce que ça rend les choses beaucoup plus simples pour les entreprises, pour les politiques, pour tous ceux qui sont en position de d'occuper un pouvoir quelconque.
Oui, c'est la mise en place de ce cercle vicieux. Et en fait, évidemment, il y a des États totalitaires où on a considéré que la Chine obligeait sa population à se faire pucer. Mais il y a aussi des démocraties qui trouvent un biais plus moins officiel pour obliger les gens. Obliger les gens, ça peut être faire en sorte que la vie soit quasi impossible quand on n'est pas pucé, par exemple. C'est comme ça que s'ouvre le livre, par un scandale qui arrive parce que une jeune fille qui n'est pas pucée vient voir sa grand-mère à Paris qui, elle, a une puce parce qu'elle avait besoin de se faire soigner de la maladie d'Alzheimer. Quand elle arrive, elle est détectée par une machine qui voit qu'elle a une grippe. Elle est tout de suite mise dans une bulle qui l'isole. Si elle avait une puce, on lui aurait communiqué cette information. Elle aurait compris, ça aurait été rationnel. Elle serait sortie quelques jours après, guérie. Là, elle panique, elle a de plus en plus peur. Personne ne peut prévenir sa famille, on la croit morte. Et comme elle n'a pas de numéro d'immatriculation, on ne peut pas la retrouver. Donc, on comprend peu à peu que les gens qui n'ont pas de puce sont mis au ban de la société quelque part et n'ont plus de moyens même d'entrer dans le métro, puisque maintenant les visages sont scannés. Si on n'est plus, on n'est pas noté comme quelqu'un qui fait partie de la population, en fait, on est peu à peu gommé d'une forme de vie sociale. Et c'est une façon d'obliger les gens, en fait. C'est comme ça qu'opère les gouvernements démocratiques et on parle de quelque chose qui est une réalité, voilà, qu'on dénonce aussi des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Il y a un pouvoir médiatique qui est tenu par deux grands groupes qui, en fait, peuvent insuffler les idées qu'ils veulent, comme c'est des gens qui ont des intérêts financiers énormes. Et notamment dans les puces, dans notre roman. Alors évidemment, ils orientent la communication vers cela. Alors à la fois les films qu'ils financent, les livres qu'ils éditent, les journaux qu'ils impriment. Et il y a la légitimité à se demander est-ce qu'il y a un contre-pouvoir ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des opinions différentes de ces groupes qui quand même tiennent financièrement à deux, la totalité de ce qui fait que, voilà, qu'on communique aujourd'hui, ou au moins à 95%. Et c'est des questions à se poser aujourd'hui, c'est des questions éthiques d'une autre forme. Mais est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui de s'exprimer librement? On parle souvent d'humour et ça cache beaucoup d'autres choses. Parce qu'on nous demande est-ce qu'on a le droit de rire de tout, mais est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sur tout? Est-ce qu'on a le droit d'exprimer des opinions sur tout? C'est des vrais sujets de société qu'il faut se questionner aujourd'hui pour légiférer, parce que c'est la seule protection possible.
Oui, tout à fait, parce que comme vous l'évoquez, bon, c'est le sujet de Résistance 2050, cette uniformisation de la pensée, mais ce livre qui se passe en 2050 avec la Libye, avec le support de la puce, c'est une situation qui existe, qui préexiste dès maintenant, et c'est important de se poser la question dès maintenant. Surtout que, bon, Résistance 2050 l'évoque aussi, il y a tous ceux qui sont un petit peu différents, que ce soit les SDF ou que ce soit les gens qui font des délits quelconques. Les SDF, on leur laisse pas le choix, on leur implante d'office la puce, hein, quand même c'est plus simple. Et puis les autres, on leur laisse le choix entre la prison ou être implanté. Donc là, il y a une volonté de revenir dans la norme et de supprimer tout ce qui est différent, tout ce qui n'est pas dans l'unicité de la pensée.
Alors peut-être un petit détail sur ce que vous venez de dire. En fait, les gens à qui on leur propose la puce ou la prison, c'est les gens qui sont justement jugés coupables et qui ont une peine à réaliser. Et qu'on leur donne une alternative qui est cette puce qui les remettrait sur le droit chemin et qui leur empêcherait de refaire un acte, un délit, un crime, peu importe. Et ça pose beaucoup de questions, en fait. Sur le choix qu'on a, sur la société vers laquelle on tend, puisqu'en fait, dans notre récit, dans la France connectée, les gens ne font pas de crimes, strictement, mais ils n'ont pas pour autant réussi à fermer les prisons, puisque la France, ça reste un seul et même peuple, qui inclut les pucés, mais aussi les gens qui ne sont pas pucés, qui n'ont pas cette puce dans le cerveau. Et donc, comme on le raconte dans le livre, il y a une prison qui se met en place et qui est exploité donc par des sociétés privées sur l'île de Corse. Et on a pris l'exemple des États-Unis, puisqu'en fait, les prisons aux États-Unis sont gérées par des sociétés privées. Donc, on a essayé, en fait, de traduire, en fait, des questions auxquelles on pourrait être confronté avec l'arrivée d'une puce dans un récit où on augmenterait les capacités cognitives, parce que c'est pas encore fait, il y a des recherches, mais c'est pas du tout fait encore aujourd'hui. Et voilà, et donc le rôle de la prison et ce qu'on propose aux gens fait partie des questions qu'on a voulu poser, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on n'avait pas...
C'était qu'on prenait une situation de départ et on déroulait le fil, et voilà. On s'est amusé avec Aurélie à faire ça sur beaucoup de sujets de société qui nous posaient aujourd'hui. Et du coup, c'est très, c'est un roman certes d'anticipation, mais c'est pas quelque chose de
c'est
lointain.
C'est pas lointain. Oui, c'est tout à fait ça.
En fait, je pense d'ailleurs ce qui est un peu glaçant, c'est que c'est que des questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Il y a plein de gens qui lisent le livre et qui d'un coup, voilà, regardent les choses qui sont en train de se passer autour d'eux d'une façon différente. Et je pense que c'est vraiment le rôle à la fois d'un auteur et d'un auteur scientifique comme Aurélie, d'alarmer sans être donneur de leçons. On ne dit pas qu'il y a une façon de faire les choses, on se dit qu'il y a une façon d'accompagner la naissance de nouvelles technologies.
Tout à fait, et on va être amené à parler des non-pucés, parce qu'on avait évoqué le personnage de Una, mais c'est vrai que cette femme très sympathique avec le triumvirat dont elle fait partie, c'est un îlot de résistance qui est plaisant, mais il y a le monde autour aussi, et le monde autour, c'est aussi le monde du religieux. C'est le monde des sectes, c'est le monde de tous ceux qui ne veulent pas la puce, parce qu'à partir du moment où on est pucé, la croyance s'efface. Donc du coup, de l'autre côté, il y a également le domaine du religieux avec tout ce que ça implique.
Oui, je ne sais pas si tu veux que je réponde.
Ah, vas-y.
Oui, en fait, on a estimé qu'une fois qu'il y avait cette puce, il y avait une sorte de rationalité absolue qui n'empêche pas quand même d'avoir des désirs de croyance ou une religiosité intérieure, mais croire aux contes et légendes préfabriqués des religions devient absurde et très, très complexe pour des gens qui deviennent extrêmement rationnels. Donc, en plus de cette peur du transhumanisme, les religions rejettent en bloc cette puce. On a estimé que, compte tenu de la population juive qui est très très faible dans le monde déjà, elle existait presque plus, qu'il y avait des noyaux de résistance en Israël. On a estimé que, par exemple, l'Italie, qui est un pays très chrétien, donc en 2050, devient une sorte de fief de résistance aussi, avec tous les gens qui s'exilent, les gens qui sont très chrétiens, qui vont vivre là-bas. Et du coup, il y a quand même une sorte de gros retard technologique qui s'opère, donc ça devient une sorte de presque de pays du tiers-monde. Mais voilà, il y a ce mouvement massif vers l'Italie, avec l'Église qui a un rôle assez étrange, puisque ils ont déjà beaucoup investi dans la technologie, dans les GAFAM. Qu'est-ce qu'ils feraient si aujourd'hui il se passait ce qui se passe dans notre livre? Ça nous amusait de nous poser la question. Et l'islam, en tout cas l'islam de France, qui est concentré sur le sud de la France, il y a eu un vrai exil avec un islam plutôt modéré et paisible à Marseille, et un islam beaucoup plus violent et plus extrémiste dans le sud de la France, et on s'est amusé à mettre ça à Ramatuelle, à Saint-Trovet. Oui. C'est ici que du coup il y a un questionnement, puisque notre personnage Luna, comme Chloé se pose des questions sur l'éthique et la création de sa puce, elle se pose des questions sur les personnes qu'elle défend à travers son action et les personnes avec lesquelles elle est obligée de s'allier, puisqu'elle se dit que du côté des pucés, il y a quand même une ouverture d'esprit. La puce enlève toute l'homophobie, enlève la xénophobie, puisque voilà, on devient assez sain d'esprit, on va dire. Et de l'autre côté, on est quand même dans un monde où voilà, les femmes ont très peu de pouvoir, ont très peu de place, toutes les dérives qu'il peut y avoir dans toutes les religions existent. Et elle se demande, voilà, quelle est ma place, comment je peux trouver une façon de résister sans être dans ces extrêmes-là, sans soutenir ces mouvements-là.
Ce qui est intéressant, c'est que là, au travers de nos discussions, on voit bien que la question n'est pas tranchée, parce que de chaque côté, on évoque tous les aspects positifs et négatifs de chaque situation. Il y a quand même des personnages qui, eux, sont plus archétypaux. C'est par exemple le personnage du président, qui lui au départ est un homme en situation d'échec scolaire parce que trop intelligent et donc pas adapté au système de scolaire tel qu'il se présente, et puis donc qui va accéder au pouvoir avec une relation d'amitié forte avec H, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le co-découvreur de cette puce, et qui va rester du début jusqu'à la fin, un homme de pouvoir et de manipulation. Donc c'était une volonté de faire de cet homme, j'allais dire, presque une figure monolithique.
Vas-y Amanda, je te laisse répondre.
Alors, je le trouve un peu moins caricatural, parce que ce qu'il a de pas caricatural et qui explique que justement il y a une ouverture d'esprit, c'est qu'il est réunionnais, c'est qu'il est noir et qu'il est président de la République, ce qui ferait du bien à la France de dire voilà, on est dans un pays où c'est possible. Donc il y a cette balance là où il n'est pas justement ce qu'on attend aujourd'hui d'un président normalien, avec une sorte de voilà de parcours tout fait, même si Emmanuel Macron avait pas ce parcours présidentiel, il avait quand même un parcours très brillant, très scolaire, il y avait quelque chose d'assez d'élitiste, et j'ai l'impression que ce président là qui rencontre H, notre prix Nobel, quand ils sont jeunes. C'est un surfeur d'une famille qui vient d'une famille dysfonctionnelle, un peu voilà. Donc il y a une sorte de, à la fois il est très différent, à la fois il y a une sorte de revanche sociale qu'il doit prendre et qui explique, qui est le moteur de son ambition. Et qui le rend, je pense, assez intéressant. Mais là où il est assez monolithique, c'est dans son désir obsessionnel de pucer le reste de la population. Sans doute parce que il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu et parce que il faut s'aligner sur les autres pays. Quand la Chine oblige sa population entière à se faire pucer, le reste du monde doit s'aligner sous peine d'être complètement dépassé. C'est comme si d'un coup vous étiez en train de faire la course, il y avait 4 Ferrari autour de vous, si vous êtes en vélo, il y a aucune chance. Et donc ils sont obligés de prendre le pas, ils se font avoir par leur propre piège.
Alors la question est que dans ces situations telles que vous les décrivez, Amanda Ster, c'est qu'ils se comprennent tout à fait par la métaphore que vous avez utilisée. Comment faire entendre les questions éthiques telles qu'elles se posent vraiment?
Aurélie, tu veux?
Ouais, je vais peut-être répondre. En fait, c'est une question, c'est difficile à répondre en une phrase, en fait. Il y a plein de solutions et de réponses à cette question. Tout d'abord, il faut qu'on ait des politiques proactives qui permettent d'encadrer le développement scientifique et technologique, en tout cas sur le sujet qui touche à l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, ou la génétique et autres, mais qui encourage l'innovation tout en protégeant les droits fondamentaux des individus. Donc ça, c'est une première chose. Et protéger la planète aussi, c'est un autre sujet. Et ça passe par des lois bien faites, premièrement, mais aussi ça peut passer par une gouvernance algorithmique infusée dans chaque institution publique et privée, où en fait chacune donne l'exemple en montrant comment les choses doivent être faites. Et quand on dit comment les choses doivent être faites, c'est aussi comment elles doivent être pensées. Et moi, par exemple, c'est ce que je fais avec mon équipe, hein, c'est-à-dire que je challenge dès le début la manière de formuler la question à laquelle on souhaite répondre. Parce que la manière dont vous posez la question, la manière dont vous exposez le problème, va vous orienter vers une réponse ou une autre. Et donc, tout ça, ça fait partie de l'éthique. Et c'est vrai que le mot éthique est utilisé beaucoup aujourd'hui. Et je crois que notre livre, il tombe vraiment à point nommé, puisqu'en fait, il va déclencher des conversations en lien direct avec l'actualité sur les technologies et sur des acteurs puissants dans le monde qui possèdent ces technologies et qui veulent les déployer selon leurs agendas à eux. Et des États qui sont un peu quand même, somme toute, perdus, même s'ils essaient de faire des régulations appropriées et innovantes sur ces sujets. Donc en fait, la réponse à cela, elle est multidimensionnelle. Il y a les États qui doivent réagir, les dirigeants donc politiques, les dirigeants économiques, les citoyens, les individus. Voilà, c'est plusieurs choses à la fois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'exemple type où on a des solutions qui viennent un peu de partout et certaines sont bancales. D'autres sont assez pertinentes et il y a une vraie discussion et un débat à avoir aussi au sein des scientifiques. Et comme le dit souvent Amanda, je suis souvent d'accord hein, sur ce point, c'est qu'en fait, il faut absolument... moi, je dis souvent, les philosophes réfléchissent à un monde qu'ils ne comprennent pas et les scientifiques construisent un monde sur lequel ils ne réfléchissent pas. Et je pense que c'est exactement ça. Et je pense que les philosophes et les scientifiques, sciences dures, j'entends, doivent fondamentalement et de manière assez urgente travailler ensemble. Et je dis souvent, moi, j'ai jamais eu de cours d'éthique hein, dans ma formation. Et le premier cours d'éthique que j'ai eu, c'était à 26-27 ans, quand je suis arrivée après mes études à mon premier poste de chercheuse. Donc c'est un peu tard.
En tout cas, merci à toutes les deux, Amanda Ster et Aurélie Jean, d'avoir fait Résistance 2050, puisque avec ce roman qui est paru aux éditions de l'Observatoire, vous amenez le débat au niveau de chaque lecteur. Et poser des questions et amener à se poser des questions, c'est déjà aussi faire avancer les choses. Donc,
merci infiniment.
Vraiment merci. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que vous allez... parce que c'est vrai que bon, le livre est là et on a envie que ça suscite quelque chose, quoi, qui est...
On a laissé ça ouvert, c'est vrai, d'abord parce que ça aurait été probablement violent de faire une fin quand on parle d'un sujet comme celui-ci. Donc, il faut garder... un espoir, et c'était vraiment voilà un lanceur de discussion. En revanche, ouais, on commence à avoir des gens qui nous approchent avec l'idée d'en faire une série. Je pense que ce serait formidable. Ah, oui. Et je pense que si voilà une série est lancée, il y aura probablement une suite à ça. En tout cas, les personnages sont là, existent, et voilà, a priori le monde existera encore en 2051. on peut imaginer une suite.
En tout cas, merci. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une prochaine aventure. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cet entretien.
Merci. Merci.
Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, c'est toujours Idéo et Débat. Et nous avons entendu donc Amanda Sterz et Aurélie Jean qui nous parlaient de leur roman intitulé Résistance 2050, paru aux éditions de l'Observatoire. Et on retrouve maintenant notre fidèle, notre chroniqueur passionnant. Il s'agit de Gérard Guégan qui, là, va nous parler du dernier livre de Christian Autier et du livre de Sylvia Plath. C'est un plaisir de le retrouver, parler d'ouvrages aussi riches et intéressants. On le retrouve tout de suite. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve la chronique de Gérard Guégan, l'avant-dernière de l'année, avec aujourd'hui deux auteurs. On va retrouver quelqu'un qu'on a déjà reçu dans cette émission puisqu'il s'agit de Christian Autier et tu vas nous parler de son dernier livre. Et puis on va parler de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, c'est Sylvia Plath. Alors tu commences par qui ?
Je commence par Christian Autier, réserve à la femme la meilleure place, c'est-à-dire la dernière, celle où elle aura le plus de temps et le plus de force. Voilà, donc Christian Autier, poste restant. Évidemment, le titre est un bon indicatif et on devine vers quoi on va. On va vers le livre qui n'est ni un roman, ni un essai, mais peut-être un essai romanesque. En tout cas, un livre où l'auteur est tout le temps présent, puisque c'est un livre dédié à la Poste, et que lui-même est un fils, un enfant de la Poste, puisque ses parents, père et mère, étaient postiers. Et que par ailleurs, comme à l'époque, lorsqu'arrivaient les grandes vacances et qu'on était dans une famille qui n'était pas forcément très riche, on cherchait des boulots pour l'été. Voilà. Et lui, en plus, travaillait à la Poste et a travaillé à la Poste. Donc, on a affaire à un spécialiste. C'est comme si il avait passé toute sa jeunesse à observer ce qu'il est en train de raconter, sauf qu'il y ajoute ce qu'il y voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui n'est plus tout à fait la Poste qu'il a connue. La Poste qu'il a connue, d'abord, c'était un lieu important. Les postiers étaient des gens respectés et aussi importants. On leur parlait, ils amenaient des... Il y avait le postier des chéquiers, il y avait le postier des paquets, etc., etc. Et puis surtout, c'était assez simple d'aller poster une lettre, d'acheter des timbres. Aujourd'hui, chacun sait à quel point parfois ça peut être difficile parce que c'est des automates et que la Poste a plutôt envie de devenir une succursale bancaire, ce qu'elle est d'une certaine manière, mais au stade artisanal encore par rapport à ce qui attend. Et c'est ça le livre. Le livre, c'est un homme, Autier, un auteur, qui hésite entre la colère et la nostalgie. La nostalgie parce que c'est sa jeunesse, parce que c'est un des endroits qu'il aimait beaucoup, apparemment, les postes, et avec raison. Et aujourd'hui, c'est la colère parce que quand il, par exemple, il raconte qu'il est à Paris à ce moment-là et il a reçu un cadeau la veille ou l'avant-veille de ses copains, sont deux bouteilles, l'une de whisky et l'autre de d'Armagnac ou de Calvados, peu importe, deux bouteilles d'alcool, et il veut les envoyer chez lui parce que comme il prend un avion pour rentrer, un avion pas cher, comme on dit, c'est-à-dire Ryanair ou une compagnie de ce type, les bagages sont limités. Donc, et donc, il arrive avec à la poste, et là, d'un seul coup, à partir du moment où il a deux bouteilles, c'est presque une chef qui vient le voir pour le conseiller, et ça devient une expédition extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle lui dit, voilà, ça, vous faites ça comme ça, et au fur et à mesure, évidemment, le prix de l'envoi augmente, il découvre, pourtant il le connaît cet univers, il a vu les postes changer dans son quartier à Toulouse, puisqu'il est toulousain, mais c'est quand même une grande surprise, quoi, de voir à quel point les employés de la Poste et donc cette femme, ce qui l'intéresse, c'est de retirer le maximum d'argent de l'envoi qu'ils doivent faire et peuvent faire. Voilà. Je pense que ce sont des expériences que chacun de nous a vécues et vit aujourd'hui.
Oh oui.
Voilà. On est loin du, bien que ce fut pas un lieu édénique, mais du postier de Bukowski.
Oui.
On est loin de tout ça. Et pourtant, en même temps, dans le ton, s'il y a un écrivain à qui il fait penser, Christian Autier, c'est au ton de Calais, d'Henri Calais. J'espère que ça lui fera plaisir.
Oui.
Parce que c'est quand même
une référence.
Voilà, une bonne référence à un grand écrivain, Calais. Mais Calais, quand il raconte ses promenades dans Paris, ses retours sur les lieux de sa jeunesse, de son enfance, il y a toujours ce double sentiment, à la fois une nostalgie et parfois un peu de colère. Là, il y a plus de colère chez Autier parce que le paysage tend à ressembler à un désert ce que lui qui avait connu autre chose, quoi. D'ailleurs, cela dit, la post-récence, ça existe toujours. Je me suis renseigné, j'allais dire que aussi la post-récence avait disparu, mais non, elle n'a pas disparu, elle existe toujours. Simplement, elle doit coûter plus cher, parce qu'elle coûtait tout à augmenter, voilà. Et en même temps, donc, quand il prend, parce qu'il sait vraiment comme c'est un... il a vraiment enquêté en même temps, il s'en est pas tenu à ses propres souvenirs, et donc il cite un rapport d'un certain Launay, qui est imbitable, incompréhensible, écrit dans une langue, c'est même pas la novlangue, c'est la technique langue, je ne sais pas, c'est incompréhensible, et il y a un truc qui le fait beaucoup rire et qui relève, et ça c'est quand même formidable, c'est que ce rapporteur, qui doit être au minimum un énarque, mélange acerbe et exacerbe.
C'est drôle, c'est très drôle.
Vraiment très très drôle, quoi, on imagine. Et rien que pour ça, c'est assez formidable. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses comme ça qui font sourire. Mais alors le lecteur d'ailleurs ressemble un peu à l'écrivain, finit par lui ressembler, ou en tout cas lui ressembler dès le départ. Et d'un seul coup, ce livre lui donne l'occasion d'être à la fois en colère, puisque voilà le fameux rapport de Monsieur Launay, qui explique quelles sont la mission désormais de l'édition, de la poste.
De la poste, le lapsus.
Et à la fois, la nostalgie, quoi. Voilà. Donc on est tout le temps partagé. Et donc c'est pour ça que c'est un livre assez, c'est très prenant, évidemment, et même dans lequel le lecteur est intime aussi avec l'auteur, puisque encore une fois, tout lecteur a été ou sera un usager de la poste.
Et oui, il y a cette familiarité en fait.
Ah, donc c'est un peu comme l'hôpital, mais c'est même ça va plus loin que l'hôpital, parce que quand même l'hôpital, il y a la souffrance, il y a l'absence, il y a tout ça. Là non, là c'est simplement comment ce qui était donc quand même le territoire de ses parents, son territoire de jeunesse, eh bien a disparu, quoi. C'est plus ça, c'est autre chose. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce qu'il y en aurait trop à dire, mais c'est un livre qu'on ne peut que lire et qui pourrait donner d'ailleurs des envies à certains de ses lecteurs, ceux qui caressent l'envie d'écrire un jour, parce qu'au fond, la poste n'est qu'un avant-goût de ce qui menace.
Oui. Voilà.
Et c'est vrai que c'est une menace. Et en même temps, moi je dois dire que par bonheur, j'ai appris, mes enfants m'ont appris à me servir d'un automate et tout ça. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des automates pour donner des timbres et timbrer les lettres. Ça, on va beaucoup plus vite. Et si ça peut m'éviter de faire des queues, ce n'est pas plus mal non plus. Parce que chaque fois que je vais dans une poste, désormais, la queue est immense. Comme il y en a de moins en moins aussi, les postes ont fermé. Voilà, donc un livre entre colère et nostalgie, que dire de plus ?
À lire, juste à découvrir.
À lire, à découvrir, oui, à découvrir. Mais ceux qui ont déjà lu des romans de Dautier, reconnaîtront, il n'a pas changé, quoi. C'est le même ton, c'est ce ton familier et lointain, parfois. Voilà.
Merci.
J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites, comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraf, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Morning Song by Sylvia Plath. Love set you going like a fat gold watch. The midwife slapped your foot soles, and your bald cry took its place among the elements. Our voices echo, magnifying your arrival. New statue. In a drafty museum, your nakedness shadows our safety. We stand round blankly as walls. I'm no more your mother than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's hand. All night, your moth breath flickers among the flat pink roses. I wake to listen. A far sea moves in my ear. One cry, and I stumble from bed, cow heavy and floral in my Victorian nightgown. Your mouth opens clean as a cat's. The window square whitens and swallows its dull stars. And now you try your handful of notes. The clear vowels rise like balloons.
On passe à Sylvia Plath.
Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est tout à fait autre chose.
Ah oui.
Évidemment, d'abord, en tout cas, je pense que toi, je le sens comme moi, donc on l'avait lu.
Oui.
C'est un livre qui avait paru chez De Noël une première fois en 72. Et c'est important d'ailleurs, 72, je dirais pourquoi, j'espère me rappeler pourquoi c'est important et le dire tout à l'heure. Mais, et il avait paru aussi dans une autre traduction. Donc il y a des tas de choses comme ça qui ont changé. Et c'est un livre magnifique, voilà. J'allais chercher mes mots, mais il n'y a pas à les chercher. C'est un livre magnifique. Alors pourquoi 72, c'est important? Parce que 72, c'est le moment où la France, en tout cas le milieu littéraire, est quand même saisi par la contestation, la véhémence, la découverte de la sexualité, la redécouverte de la sexualité dans la vie quotidienne et dans la littérature. Tout ça se passe comme ça et ce livre surgit là-dedans. C'est un livre de femmes et c'est un livre de femmes où on peut dire qu'elle met son cœur à nu et son corps aussi.
Oui.
Donc c'est un livre d'aveu, c'est un livre d'interpellation. Elle interpelle, je veux dire, chaque fois que les pages, on les tourne, on a l'impression d'être son ami.
Intime, on est dans son intimité.
Voilà, ça doit être encore plus fort entre femmes, mais de toute façon, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression de quelqu'un qui m'est cher, que j'ai rencontré, et qui est plutôt séduisant, et qui d'un seul coup me raconte des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, une chose qui est dite par... Il y a une préface, et dans la préface, c'est pas relevé. Ce que je trouve étrange, c'est que quand même, c'est quelque chose qui commence par une dizaine de lignes, même plus de pages, mais en tout cas, moi, je vais vous en lire qu'une dizaine de lignes, qui commence à New York, donc... et qui commence avec les Rosenberg, ce couple de militants communistes américains qui ont été accusés d'avoir vendu aux Russes les secrets de la bombe atomique, alors que vraiment, au poste où ils étaient, c'était assez compliqué de pouvoir avoir accès aux secrets, mais peu importe, ça a été les grandes luttes sur la terre entière, on peut dire. Les manifestations se succédaient. À l'époque, les communistes étaient puissants et donc pouvaient remuer des masses importantes. Et c'est comme ça que ça commence. Donc ça, c'est très étonnant parce qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de ces pages où... Or, ça va de pair avec le reste. Voilà ce qu'elle écrit. C'était un été étrange et étouffant. L'été où ils ont électrocuté les Rosenberg. Et je ne savais pas ce que j'étais venu fabriquer à New York. Je n'y connais rien aux exécutions. L'idée d'être électrocuté me rend malade. Et les journaux ne parlaient que de ça. À chaque coin de rue, à chaque bouche de métro, sentant le rance et les cacahuètes, les gros titres me fixaient de leurs yeux exorbités. Cette affaire ne me concernait pas du tout, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela ferait de se sentir brûler vif tout le long de ses nerfs. Je me disais que ce devait être la pire chose au monde. Voilà.
Ouais.
Donc le ton est donné, mais je veux dire, l'écriture est là, quoi. Il y a vraiment un écrivain qui parle, mais en même temps, un écrivain de son temps. Elle n'écrit pas dans un monde idéal où il y aurait une jeune fille, une jeune femme qui raconterait sa difficulté d'être. Non, sa difficulté d'être s'appuie sur une réalité. Et la réalité, à ce moment-là, à New York, c'est les manifestations, encore une fois, pour les Rosenberg. C'est aussi New York qu'elle a du mal à aimer et qui la rend malade. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a les électrocutions et que le simple fait, c'est une horreur absolue comme mort, la mort par électrocution. Voilà, donc...
Cette odeur de rance et de cacahuète, ça aussi, tu vois, c'est...
C'est ça. Il y a les odeurs dans
ouais.
ça. Dans
ah ouais.
C'est un vrai écrivain. Et moi, elle m'a fait penser, quand je l'ai relu cette fois-ci, à quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est Salinger, et qui, lui, 20 ans avant, ça avait paru en 51 aux États-Unis, avait publié son fameux « L'attrape-cœur ». Cœur, c'était aussi la découverte de beaucoup de choses de la part d'un grand adolescent américain qui venait à New York et qui trouvait la vie, une vie à laquelle il ne s'attendait pas. Et je pense pas qu'il y a un lien littéraire, mais ça fait partie de cette époque où brusquement les plus jeunes se racontent. Ça, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est que c'était des voix qu'on n'entendait pas, qu'on faisait parler. Un écrivain mettait en scène un jeune homme ou une jeune femme, on les faisait parler. Là, c'est... Alors, est-ce que c'est proche de Sagan aussi? Bon, pas vraiment, c'est plus fort que Sagan, en tout cas. C'est au-delà de Sagan. Sagan, c'est quand même le bonheur. Là, c'est l'apprentissage du malheur. C'est pourtant elle a tout pour réussir. Elle est à New York, donc elle vient de Boston, plutôt de la banlieue de Boston. Elle a gagné un concours de poésie et elle a droit à plein de choses comme on le fait dans les concours, c'est-à-dire aussi bien au restaurant, aux boutiques de mode et tout ça, etc. Et en fait, elle est porteuse en même temps du mal qui va l'abattre. C'est-à-dire qu'elle est proche de la dépression déjà. On le sent tout le temps. On sent cette inquiétude devant le gouffre qui va bientôt s'ouvrir sous ses pieds. Et elle raconte ça aussi avec une alacrité, une légèreté, une ironie quand elle va se retrouver dans cette maison de repos où ses parents vont la conduire. Car l'image de la cloche de détresse c'est la cloche quand un homme tombe à la mer et meurt sur les bateaux à voile, on faisait sonner la cloche. C'était la cloche de détresse parce qu'on annonçait qu'il y avait un homme à la mer, mais que peut-être la prochaine fois, on est sûr qu'il allait suivre, c'est le bateau qui serait englouti par les flots. Donc c'est quelque chose qui appelle à l'aide. Voilà. Donc, un appel à l'aide. Et alors, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que elle va faire un voyage en Angleterre où elle va rencontrer l'homme de sa vie, si je puis dire. En tout cas, l'homme, tout de suite, elle décide de se marier, de faire des enfants. C'est un poète britannique, Ted Hughes. Et en même temps, on se dit que ça va pas marcher. On le sent tout de suite à des détails et tout ça, etc. Et ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Et en même temps, oui, ça marche puisqu'elle arrive à écrire ce livre. Et quand ce livre paraît, je ne dis pas que le succès est immédiat, mais il va venir surtout dans les semaines qui suivent. Un mois après l'apparition, elle se suicide. Elle se suicide alors que les dernières pages du livre, elle sort de sa dépression nerveuse, elle sort de cet endroit où elle était enfermée, d'une certaine manière, même si c'était plutôt un milieu ouvert, et ça finit comme ça, je cherche les lignes exactement. Je me suis levé, le médecin lui dit « Allons-y, Esther !» Esther, évidemment, pour Sylvia.
C'est son personnage, oui.
Je me suis levé et je l'ai suivi jusqu'à la porte ouverte. Je me suis arrêté pour prendre une petite gorgée d'air sur le pas de la porte et j'ai vu le médecin aux cheveux argentés qui le premier jour m'avait parlé des rivières et des pères pèlerins, mais aussi le visage crevassé et cadavérique de Mademoiselle Huet et d'autres pères dieux qu'il m'avait semblé reconnaître sous les masques blancs. Tous les visages, tous les yeux se sont alors tournés vers moi. Et m'avançant vers eux, comme guidé par un fil magique, je suis entré dans la pièce. Et à ce moment-là, un mois plus tard, elle sort de la pièce.
Ouais.
Elle se tue d'une façon...
Oh, terrible, terrible.
Terrible, ouais. Terrible. Elle l'ouvre le gaz de son four et elle met sa tête dans le four.
Avec les enfants qui sont à côté.
Absolument. Et elle attend la mort dans la tête, dans un four.
Ouais, c'est terrible.
La réaction logique, ce devrait être « Ah, je sors, c'est pas possible, je vais pas me tuer. » C'est une façon de se tuer qui prend du temps, voilà. C'est pas comme une pendaison ou une balle dans la tête. C'est long, ça se fait pas en quelques minutes ou en quelques secondes. Et c'est sa détermination profonde. Et c'est ça qui fait la force de ce livre, c'est que les choses les plus belles, comme les choses les plus laides, comme les choses les plus terribles, sont racontées avec une légèreté, une intelligence, extraordinaire, extraordinaire. C'est vraiment, c'était vraiment un très grand écrivain. Et je comprends qu'aujourd'hui, il y a une sorte de culte autour d'elle, surtout dans les pays anglo-saxons, où il y avait ses poèmes qui ont été publiés, certaines lettres, etc. etc. Il y a même eu un film en 2003, j'avais vu, qui s'appelait Sylvia, et qui était pas un bon film, mais comment faire un film sur un personnage comme
pareil,
ça.
Pareil, oui, oui, c'est ça. Donc, mais en tout cas, à lire et à relire.
Voilà, voilà. Donc c'est le grand livre. C'est oui. Un grand livre, et je pense que quiconque le lira pour la première fois sera aussi épaté que son lecteur français il y a bientôt 60 ans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
Eh ben merci à toi. C'était un plaisir de retrouver deux auteurs que j'aime bien. Donc, je te remercie de cette chronique. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un gros morceau, mais on n'en dira pas plus. Voilà. Merci à toi.
Merci à toi aussi, surtout de m'héberger. Allez, à bientôt.
À bientôt.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
I like it, I'm not
Voilà, on arrive à la fin de ce numéro d'Idéo et Débat qui était assez copieux. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, que vous aurez plaisir à lire les ouvrages dont nous avons parlé. Et on se retrouve dans 2 semaines. On continue de progresser avec deux auteurs qu'on retrouvera, deux auteurs qu'on aime bien. Il s'agit de Claire Castillon et de Michel Gazier. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. À bientôt.
Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant.
L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Par un été torride, septembre semble vide, vide et désespéré.
Un été sans sommeil jusqu'à la déchirure. Le ciel noir et la mer à jamais confondus. Je pourrais dessiner toute ta chevelure. Papillons bleus et noirs de tes mèches tordues. Mais la foudre est tombée, j'en garde la brûlure. Et ce poignard de nacre dans la plaie qui me tue. Tes lèvres entr'ouvertes et puis cette blessure. Où l'amour et la mort se mêlent, Sonia d'or.
L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré.
Je suis comme je suis, malheur à qui me prend. Malheur à qui me frôle, attention si je mens. Et l'amour et la mort se mêlent, Sonia d'or.
L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Semble vide, vide et désespéré. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré.
Ce cri qui n'a pas la rosette. Ce cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître ?
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.